Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui au programme, la dérive des grandes écoles françaises, vous allez voir de quoi on va parler.
Cette saison.
Oui, et puis une autre dérive... les voyous au gouvernement ou l'ère Macron, parce que ce n'est pas nouveau, mais vous allez voir aussi de quoi on va parler. Et puis on terminera par cette affaire au conseil municipal
d'Ivry-sur-Seine.
Mairie communiste, avec ce fameux scandale. Vous allez voir, on va rigoler un peu. Bon, pour commencer, les grandes écoles. Alors, dérive, bon, ça fait un moment qu'on en parle.
On est en fin d'année, le bac est en train de se terminer pour les élèves de terminale, les résultats du fameux Parcoursup sont tombés il y a plus de 10 jours maintenant, mais surtout c'est aussi les fins d'année dans les grandes écoles où ceux qui ont achevé leur cycle obtiennent leur diplôme. Et là, on va partir un peu en reportage puisque vous avez assisté à une remise de diplôme et pas n'importe où, cher Richard.
Oui, alors j'étais à HEC, figurez-vous. J'étais donc à la remise des diplômes la semaine dernière, à HEC, donc grande cérémonie à l'américaine. Alors je ne sais pas pour vous, Pierre-Henri, mais moi, j'ai fait pas mal d'études, enfin vous aussi, je ne sais pas pour vous allez voir de quoi je parle, mais quand j'ai eu mes diplômes, j'en ai eu plusieurs, je recevais mon diplôme par la poste dans une enveloppe Kraft. Bon, c'est vrai que c'était pas très sexy,
voilà.
J'avoue. J'aurais préféré qu'il y ait un minimum de... Voilà,
les trois que j'ai reçus, c'était pareil.
Pareil,
c'est-à-dire
aussi.
Un prêt au concours général, le bac et le fin d'études à Sciences Po, dont j'aurai l'occasion de reparler. C'est pareil,
bac, bien évidemment.
Sciences Po, il fallait se pointer à un bureau avec des secrétaires un peu revêches et le demander, signer un reçu, et puis on partait. Voilà,
nous...
Cassez-vous si vous n'êtes pas content.
Voilà, moi, comme j'ai fait... chaque année, on en avait un, parce que licence, maîtrise à l'époque, etc., même le doctorat, c'était par la poste.
Pour la fin de licence, nous, on n'a rien eu du tout. Hein. C'était la fin de master, le M2. Donc, à la fois, vous avez un master d'État et le diplôme de fin d'études de Sciences Po. Le master d'État, c'était littéralement une feuille en papier, 80 grammes avec un vague tampon. Et puis, un peu cartonné pour Sciences Po. Quand
voilà, nous aussi. Bah, écoutez, moi, je suis plus âgé que vous. Donc, à l'époque, ça s'appelait maîtrise, DEA, etc. Mais je recevais ça. J'étais très déçu d'ailleurs la première fois, parce que le bac, c'était sur un carton jaune.
Tout à fait.
Alors que l'université, les premières années, après ils se sont un peu améliorés, mais les premières années, on recevait le DUG au début, après la licence, etc., sur un papier.
Ouais.
C'était un papier blanc, 80 grammes.
Je crois que c'est toujours un peu le cas, en tout cas.
Oui,
à mon époque,
les licences étaient... en troisième cycle, c'était pas pour le troisième cycle, ils ont changé un peu leur méthode, ils ont un peu décoré le papier, ils ont mis le logo de la Sorbonne, etc., sur un papier cartonné jaune, mais par la poste, en enveloppe grave. Passons sur ça.
Et on s'est américanisé, en fait.
Oui, alors on a fait, vous voyez, c'est les deux extrêmes. Parce qu'on aurait pu quand même faire une petite cérémonie sympathique à l'époque, on ne l'avait pas fait, faire un diplôme un peu plus chic, c'était pas le cas, mais alors là on est passé à l'autre extrême, parce que là c'est la cérémonie, c'est une messe mormone, enfin une sorte de messe protestante, alors il y a la tenue noire avec le chapeau, tout ça, bon pourquoi pas, c'est sympathique.
C'est pas du tout de tradition européenne.
D'accord, c'est américain.
Vous savez, le chapeau, nous, on le connaît parce que c'était le couvre-chef.
Le chapeau des juges.
Oui, et puis c'était le couvre-chef de Géo Trouve-Tout dans la bande à Picsou.
Oui.
Mais à part ça, nous, ça fait écho à rien culturellement.
Ce n'est
c'est
pas
très
ça
américain.
Qui me gêne, je vous l'avoue.
Ouais.
Alors, je suis arrivé dans ce campus d'HEC, donc prestigieuse école, la meilleure école de commerce en France.
Ouais.
Et donc, j'arrive... Et effectivement, les étudiants étaient tous dans cette robe noire avec le chapeau. Bon, très bien, ça, c'est pas ça qui me gêne, bien sûr. Mais alors après, il y a la cérémonie.
Ouais.
Vous voyez? Et donc là, je vois.
Là, ça se gâte.
Ah là, ça se gâte, là, parce que je vois défiler d'abord tous ces jeunes. Je suis très observateur, vous voyez, je vois tous ces jeunes et puis je les scanne à travers leur cape noire. Alors bon, vous savez, autrefois, contrairement à l'idée reçue, il y a toujours eu des classes populaires qui accédaient aux grandes écoles.
Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Que ça soit dans les classes prépa et dans les grandes écoles d'ailleurs.
Voilà.
Mais ça, c'est statistiquement prouvé.
Et donc, les gens issus des classes populaires rentraient dans les grandes écoles autrefois et puis essayaient de... c'était l'ascenseur social, pour utiliser un terme que je n'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, passons.
Oui, ou la méritocratie, ou un mélange des deux.
Et puis, ils essayaient de s'adapter à un monde. Ils essayaient de monter dans l'échelle sociale, si vous voulez.
Oui.
Donc, leur modèle, c'était les chefs d'entreprise, etc. Ils essayaient de eux, parfois, ils pouvaient être des fils d'ouvriers, bien, ils essayaient de se mettre en costume parce qu'ils montaient dans l'échelle sociale. Ils étaient très contents de pas de copier, mais enfin, d'intégrer un monde où on s'habille différemment.
Oui, parce
etc.
que c'était une élite à la fois intellectuelle et économique qui fixait la norme culturelle. Et cette norme culturelle, elle était un objet d'imitation pour tout le reste de la société. Parce qu'il y avait, même ça a commencé longtemps avant, hein, la bourgeoisie copiait la noblesse, et puis la petite bourgeoisie copiait la grande bourgeoisie,
exactement.
Ainsi de suite. Ça a toujours fonctionné comme ça.
Et c'était bien, parce que c'était se considérait comme une montée, une intégration dans un monde.
Bon. Et puis un signe de dignité aussi.
Exactement. Voilà. Eh bien, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le nivellement par le bas. Autrefois, enfin, pourquoi le fils d'ouvrier faisait ça? Parce qu'en fait, si son père s'habillait en tenue bleue, c'est pas parce qu'il aimait bien. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il était ouvrier. Et donc, lui, en accédant à ce milieu, bah, il quittait ce statut qui n'est pas formidable. Bon, parce que, encore une fois, les ouvriers, s'ils s'habillaient en tenue d'ouvrier, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que non seulement celui qui vient des couches populaires est très fier de s'habiller mal, on va dire. Avant, c'était par obligation, s'il n'avait pas le choix, ni les moyens, ni le choix, ni le savoir-faire. Là, c'est une revendication, et pire encore, c'est le fils du bourgeois qui copie le fils d'ouvrier. C'est-à-dire que les fils de bourgeois à HEC veulent s'habiller comme un clodo, pour parler vulgairement. Voilà.
Bah, voilà, bah, je vais vous donner un exemple très concret qui date de cette semaine. C'est le jogging.
Oui.
Alors le jogging, quand on est dans un établissement, vous savez que je travaille en établissement scolaire, et on a un règlement vestimentaire qui est assez strict, et donc on ne vient pas en jogging. Quand on a grandi dans les années 80-90, porter le jogging en dehors de chez soi et en journée, c'était, on va le dire clairement, assimilé à même pas une classe sociale particulière, mais à ce qu'on appelle des beaufs.
Exactement.
Je vais schématiser.
Ou des voyous, des racailles.
Ou des racailles de banlieue. Mais je schématise sans aucun mépris social dans mon propos, mais c'était vraiment le beauf au RMI à l'époque, au RSA aujourd'hui, dans sa tour à Tourcoing, qui portait. Mais maintenant, c'est le fin du fin. Donc, pour passer les épreuves de bac, théoriquement, c'est le règlement de l'éducation nationale qui s'applique et plus le règlement du lycée. Donc tous ceux auxquels on interdit le jogging toute l'année sont venus passer les épreuves de bac dans l'établissement où je travaille en jogging. C'est pas 100% des élèves, loin de là, mais c'est quand même beaucoup. Je peux vous dire que le niveau d'élégance est frôle le zéro. C'est une antiphrase que je dis parce que vraiment, ils n'ont l'air de rien. Surtout les demoiselles qui ont l'air de sac à patates. Mais c'est pas ça la question que je me pose.
On pourrait se dire, les auditeurs pourraient se dire, mais ce n'est pas important.
Si, c'est très important. Mais
c'est
moi,
une question d'abord de politesse.
Ce qui me choque le plus, c'est qu'avant d'arriver dans les salles où ils composent, et donc ou dans la soirée de remise de diplôme, ils sortent de chez eux. Donc ça veut bien dire que les parents, à un moment ou à un autre, cautionnent cette tenue-là.
Oui.
Et alors moi, je ne comprends pas pourquoi cette génération de parents qui a maintenant des enfants, on va dire, entre 16 et 25 ans, cautionnent ce que leur génération de parents ne cautionnait pas, c'est-à-dire des habits de plouc ou de beauf, comme si c'était le fin du fin quand on va composer son épreuve de bac. Moi, ça me dépasse complètement.
Voilà. Donc là, on est à HEC, on a des gens, je regarde un peu, y en a qui viennent avec des chaussures de sport sales. Vous savez, c'est pas seulement
la grande mode, ça.
Oui.
Robe de soirée pour les demoiselles, mais des Air Max.
Oui,
au
alors des espèces de baskets qui étaient à l'origine blanches, qui sont devenues marron, la saleté. Les types sont pas coiffés, parfois pas lavés non plus, parce que vous voyez les cheveux gras et tout. Enfin, faites un effort, bon sang. Vous venez à
une
vous êtes diplômé d'HEC,
c'est
prestigieux, c'est l'élite française. Et je me dis, mais si c'est ça l'élite française, mon Dieu, on est mal barré. Hein.
En fait, et c'est le cas, et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau symbolique et au niveau de ce que cela transmet comme modèle à imiter pour le reste de la société.
Voilà. Alors,
qui a envie véritablement d'imiter ça?
Voilà, je corrige juste, je fais une petite précision, ce n'est pas bien évidemment la majorité des élèves qui étaient comme ça.
Mais suffisamment pour que ça se voit.
Exactement. Il y avait une bonne moitié, ce qui est beaucoup. Bon, il y avait une autre moitié
qui
était partagée entre un petit effort et certains étaient même très bien.
Bon.
Voilà. Donc, relativisons.
C'est pas mal.
Mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une petite minorité qui était un peu déglinguée. Eh bien non. Ça, c'est l'accessoire. Après...
Mais c'est lié quand même.
C'est un état d'esprit.
Ce dont vous allez nous parler, c'est lié.
C'est un état d'esprit. Alors vous avez.
Il y a l'idéologie. Parce
oui,
derrière,
oui, parce
voilà.
que là, bon, alors d'abord, il y en a beaucoup parce que ça aussi, c'est un scandale. Ça, c'est pour ça que je dis la dérive, parce que ce sont des écoles d'élite dans lesquelles on rentre après 2 années de préparation.
Ouais.
Les écoles préparatoires,
quand on redouble, quand voilà, on cube.
Les écoles préparatoires, c'est les écoles élitistes en France. C'est un modèle français qui n'existe nulle part ailleurs.
Ouais.
On nous critique beaucoup, mais en fait, on en est jaloux. En vérité,
fait.
Parce que c'est un modèle d'excellence. Les années préparatoires, c'est très difficile. Les élèves travaillent pendant 2 ans dans un lycée à préparer un concours dans lequel pour accéder à une école où il y a 400 places et il y a plus de 10 000 candidats, vous voyez. Et les 10 000 sont bons en général, parce que pour accéder à une école préparatoire,
ils sont très bons même.
Bah oui, parce que pour accéder à une école préparatoire, il faut avoir un très très bon dossier. Ça veut dire que dans les écoles préparatoires, il y a déjà d'excellents élèves. Et puis après, ces excellents élèves vont être triés, on va piocher parmi eux, ils sont 10 000, 400 pour HEC. Et donc, vous voyez, donc c'est très difficile, ils rentrent, et après, pour des raisons d'argent, des écoles d'élite comme HEC ou d'autres, ESSEC, etc., pour empiler de l'argent, pour ramasser encore plus d'argent, ont créé des espèces de diplômes parallèles.
Qui n'ont aucune valeur ou
presque. Qui n'ont pas beaucoup de... Ouais.
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les bachelors, les BBA...
Alors, HEC, il n'y a pas de bachelor.
Ouais, mais il y en a à l'ESSEC, je crois.
Il y en a partout, sauf à HEC. Heureusement, HEC, comme c'est la meilleure, ils ont préféré ne pas faire ce genre de choses. Mais ils font des masters, où, en gros, ils récupèrent des élèves, des étudiants qui ont des diplômes autres.
Ouais.
Ils les récupèrent en dernière année.
Ça s'appelle les PGE, ça veut dire les parcours grande école. C'est-à-dire entrer dans une grande école, mais sans avoir le vrai diplôme de la grande école à la sortie. Voilà.
Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que parmi ceux qu'ils récupèrent, il y en a qui sont des gens d'un très 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 bon niveau, très bien, là il n'y a aucun problème.
Ouais.
Et puis il y en a d'autres, ce n'est pas formidable. Le problème, c'est que s'ils les recrutaient sous concours, ça serait formidable. Non, en fait, c'est sur dossier. Et donc, parmi ces gens, il y en a qui sortent de très très grandes écoles prestigieuses, des écoles d'ingénieurs, polytechniques, etc., ou d'autres.
Ou d'autres pas du tout, qui sortent littéralement de BTS.
Voilà.
Parce que c'est possible. Pour une petite élite du BTS,
voilà,
c'est possible.
Exactement, avec une expérience professionnelle, etc.
Ouais.
Mais là aussi, pourquoi pas? Parce qu'il peut y avoir des talents
pourquoi
là-dedans.
Pas.
Mais il faut... On aurait préféré que ça soit soumis à concours. Pourquoi? Parce que s'ils sont vraiment, s'ils méritent vraiment d'aller dans ce genre d'école, eh bien, ils le montreront dans un concours. Eh bien, le fait que ça soit sur dossier, c'est un peu, on ne sait pas ce qu'ils valent exactement. Et qu'est-ce qui est pas bien, si vous voulez? C'est que ils ont le même diplôme que d'autres qui ont fait une prépa de 2 ans, une école préparatoire de 2 ans, qui ont un niveau excellent. Et tous les deux ont le même diplôme, et on se rend compte à la sortie qu'ils ne sont pas du tout du même niveau, vous voyez.
Alors, en fait, la question se pose exactement de la même manière à Sciences Po, avec les conventions signées avec des établissements en zone d'éducation, en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, dont le recrutement, on le sait depuis la mise en place il y a 25 ans sous la houlette de Richard Descoings, le président de Sciences Po à l'époque, le directeur de Sciences Po. On sait très bien que ces élèves-là sont recrutés avec des critères très différents, ont le même diplôme à la sortie, la valeur du diplôme n'est pas la même que celui qui est rentré sur le concours.
J'imagine que les directeurs les directeurs des ressources humaines dans les sociétés regardent le CV, font parfaitement la différence entre ceux qui ont fait des prépas ou pas, j'imagine.
J'espère.
Voilà.
Il faut regarder.
En tout cas,
voilà.
Le comble du ridicule, c'est que moi j'arrive là, je vois des capes noires avec des écharpes bleu foncé et d'autres bleu ciel. Alors je m'interroge, pourquoi il y en a qui portent des écharpes bleu ciel et d'autres des bleu foncé? C'est pas une question de filles-garçons, parce que c'est dans les deux.
Ouais.
Et donc je demande, et on me dit, tenez-vous bien, en fait c'est de l'apartheid, je plaisante bien sûr, c'est que ceux qui ont fait des écoles préparatoires et qui sont rentrés
par la grande voie,
ont l'écharpe foncée, et ceux qui sont rentrés en dernière année,
on les charpe le clair.
Non mais c'est pas gentil, parce que en fait, vous voyez bien, ils se charrient d'ailleurs.
Évidemment,
parce que ceux qui ont l'écharpe la plus foncée se considèrent comme l'élite, et les autres non.
C'est quand même un drôle de système. On va faire une pause pour le
Et puis après, je vais attaquer très vite le contenu.
Ouais.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, je conclue sur cette affaire, pour rentrer dans le vif en fait. Donc, il y a la cérémonie. Alors bon, je vous ai dit, je vois tous ces étudiants, il y en a beaucoup qui défilent, parce que comme ils ont pris énormément d'étudiants qui viennent d'ailleurs en dernière année... Bon, les écharpes claires étaient plus nombreuses que les écharpes foncées, presque.
Ouais.
Bon, et donc, Bon, il y a un peu de tout et tout, bon, très bien. Beaucoup d'étrangers.
Ouais.
Alors ça, c'est aussi, c'est la mode. Hein.
Oui,
il faut avoir beaucoup d'étrangers,
à
l'ouverture. Je ne sais pas ce que ça nous apporte. Hein. J'attends toujours que l'on me dise qu'est-ce que ça nous apporte. Bon, à eux, ça apporte beaucoup d'argent. Hein, parce que j'ai oublié de vous préciser que s'ils prennent des étudiants en dernière année sur dossier sans trop regarder, c'est que ça leur apporte quand même une centaine de milliers d'euros pour une année.
Hein. Oui, pour une année.
Voilà,
bah,
à peu près. Hein,
c'est
quand même pas rien.
C'est
comme s'ils achetaient, d'ailleurs, les étudiants qui sont rentrés par la prépa, les charries en leur disant vous avez acheté votre diplôme, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, vous voyez.
Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus.
Oui.
Mais vous savez, c'est la même chose, on parlait des MBA tout à l'heure. Aller faire son MBA aux États-Unis, ça, c'est entre 100 000 et 200 000 dollars pour l'ensemble de la formation. C'est du diplôme acheté, hein, parce que quand vous êtes entré dans un MBA, vous allez au bout normalement, sauf accident ou décès.
Oui.
Donc voilà.
Donc là, là, on a le président d'HEC qui fait un discours. Alors, je tiens quand même à préciser que les profs défilent, les profs d'HEC défilent, pas tous, mais une équipe défile avec une robe noire, avec des, on dirait des juges avec des écharpes rouges. Bon, c'est sympathique,
pourquoi pas.
Mais sauf que là aussi, je les ai scannés.
Ouais.
Bon, certains étaient habillés classiquement, et d'autres étaient aussi alors, des profs d'HEC en basket pourri quand même.
Hein. Oui.
Donc, eux aussi. Et donc, bref, et donc le président nous fait un discours. Il dit 2-3 mots en français.
Très bien, tout le
et
reste.
Et puis après, en anglais.
En anglais.
Il nous fait un discours en anglais. Ça, je vais revenir là-dessus.
Mm.
Bon, son discours, c'est qu'on est tous beaux, tous gentils. Enfin, il forme une élite économique qui va rentrer dans le monde de l'entreprise où c'est un monde de requins, où il y a une concurrence folle dans les entreprises, etc.
Ouais,
il leur explique que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, aimez-vous les uns les autres et embrassez-vous. C'est une messe mormone.
Ouais.
Sauf qu'on n'est pas à l'église, on est à HEC. Et bon, je vous passe les détails. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit, en anglais, bien sûr, que les guerres, c'est pas bon pour le business. Bon, certes, mais ça, il a développé.
Déjà, ça dépend des fois et ça dépend des guerres.
Oui, bien sûr, en plus, vous avez raison. Mais ce qu'il veut dire par là, parce qu'il a développé quand même, je vais pas rentrer dans les détails, on n'a plus le temps. Ce qu'il veut dire par là, c'est que accepter les situations géopolitiques telles qu'elles sont, parce que sinon, c'est pas bon pour les affaires. Autrement dit, s'il y a de l'argent, eh bien, si c'est un régime islamiste, vous savez, Décathlon a bien vendu des burkinis.
Oui,
alors, l'argent n'a pas d'odeur. Donc là, il est en train de nous faire du Décathlon. Il est en train de dire, bon, la guerre, c'est pas bien. Alors, si vous avez des pays qui vous menacent, qui menacent leurs voisins, qui tuent leur population et tout, c'est pas grave tant qu'il y a de l'argent.
Faites du commerce. Voilà.
Bon. Alors, tout ça en anglais. Après lui, arrivent alors deux anciens élèves d'HEC qui ont monté une entreprise qui marche super bien.
Ouais.
Alors un binôme comme ça, qui vient nous parler dans un mauvais anglais d'ailleurs.
En plus, ouais.
Voilà, et comme ils sont pas très bons en anglais, ils répétaient la même chose pendant... Ah, ça durait une demi-heure, c'était interminable. Et ils se répétaient, en gros, ils disaient « Votre associé, c'est votre meilleur binôme. Et puis sans lui, vous pouvez rien faire. Et puis si vous n'avez pas d'associé, c'est pas génial. Et
ça,
puis
et
il faut avoir une bonne idée. Et si vous ratez votre idée, bah, cherchez une autre idée. »
C'est vraiment révolutionnaire au niveau du management, ça.
Oui, et puis voilà, et ça se terminait là, et puis ça se répétait ça, en boucle, en anglais, voilà, et puis à la fin, la cerise sur le gâteau, il demande à toute la salle de se lever, il y avait là 2000 personnes.
Ah oui, c'est la messe évangélique.
Voilà, tenez-vous par la main, levez-vous.
C'est des pentecôtistes,
je ne vous cache pas, Pierre-Henri, que je ne me suis pas levé, j'ai tenu personne par la main.
Vous avez bien fait, c'était la descente de l'Esprit-Saint, sans doute. Hein.
Alors, il voulait qu'on se lève et qu'on se tienne par la main pour dire qu'on s'aime tous. Enfin...
Où est-ce qu'on est, c'est ça la
cérémonie d'HEC. Alors après, bon, pour conclure, je passe vite parce que
faut qu'on parle d'Éric Ciotti.
Oui, je fais
important.
Très vite. À la fin, ça s'est conclu par un élève qui vient nous raconter qu'il est pauvre, mais qu'il est rentré à HEC quand même, et que sa mère a un cancer, et que maintenant la vie est belle parce que sa mère est guérie, lui a réussi, et il va aider les autres au Sénégal.
C'est très américain,
très
dans
américain.
Le mauvais sens du terme.
Non, mais cette
hein.
espèce de déballage de vie privée était insupportable. Et puis après, pour terminer, vous avez des élèves de première année qui viennent faire un spectacle. Alors le spectacle, il y en a une qui lève le poing, hein, et qui nous explique qu'elle va faire des manifs quand elle sortira d'HEC et des grèves pour sauver la planète.
Je ne sais pas pourquoi elle fait HEC.
Elle aurait pu faire philosophie à Nanterre.
Oui.
Et puis un autre... non, elle-même, après, elle nous explique, ou un autre, je ne sais plus, que le néolibéralisme...
Oui, c'est l'ennemi.
C'est l'ennemi.
C'est pas mal quand on est à HEC.
Voilà.
Ouais, c'est
et donc, voilà. Et puis, je suis sorti, et là, je me suis un peu rassuré, et j'ai discuté avec plein de gens, plein d'élèves. Mmh. Je me suis rendu compte que 80% des élèves trouvaient ça ridicule. Ils étaient pas contents de cette cérémonie, ils trouvaient ça... Mais vous savez, ils ont subi ça, et ils disent en privé, à voix basse, que c'était nul, que c'était ridicule, médiocre, c'est le vocabulaire qu'ils ont utilisé, mais personne n'ose le dire, vous voyez. C'est ça, en fait, on vit, c'est toujours la minorité qui impose son modèle à la majorité, et la majorité
s'auto-censure.
S'auto-censure.
Voilà. complètement. J'aurai l'occasion dans une émission ultérieure de vous faire un petit point sur Sciences Po Paris, parce que ça vaut le détour. S'il y a eu une fronde interne contre l'actuel directeur, hein, Louise Bassi, de la partie la plus à l'extrême gauche du corps enseignant, titulaire comme vacataire, je vous expliquerai la différence, mais on en parlera une autre fois.
Oui, juste pour terminer sur l'anglais, alors ça c'est pas que HEC, toutes les grandes écoles maintenant.
Oui, j'accepte en anglais, toutes.
Non mais tous les cours sont en anglais. Alors sous prétexte qu'il faut attirer les étudiants étrangers. J'attends que l'on m'explique de manière claire, pas avec des mots qui ne veulent rien dire, qu'est-ce que ça nous apporte d'attirer des étudiants étrangers. Et tout ça est en anglais. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, très bien. Mais les étudiants étrangers, s'ils veulent venir étudier à Paris, ben ils n'ont qu'à apprendre le français.
Ce serait pas mal.
Ça serait pas mal. Puis on n'arrête pas de dire qu'il faut défendre la francophonie. Ben c'est une très bonne solution pour. Alors après, on dira, ils viendront pas. Et ben tant pis pour eux.
Et oui, et peut-être tant mieux pour nous d'ailleurs.
Oui.
On va passer à notre deuxième sujet, qui est une illustration des mauvaises manières qu'on pensait naïvement révolues, remontant à l'ère du gaullisme triomphant, et puis de Pasqua, de Chirac et tout ça, mais pas tout à fait, parce qu'il y a eu une altercation entre le maire de Nice, Éric Ciotti, et puis Philippe Tabarot, qui est ministre quand même des Transports.
Oui, alors, vous savez, c'est pas une altercation, c'est une agression verbale. C'est une agression de la part du ministre. Mais pourquoi j'ai dit Houlère Macron dans le sujet là tout à l'heure, lorsque j'ai présenté l'émission, les sujets de l'émission, c'est parce que on a commencé l'ère Macron avec, j'ai oublié son nom, rappelez-moi Pierre-Henri, le garde du corps de Macron.
Ah, Benalla.
Benalla. On a commencé avec Benalla. Ouais. C'est la barbouzerie macronienne, quoi, si vous voulez.
Mais Benalla, en fait, c'est quelqu'un qui aimait vraiment son travail, parce qu'il faisait des heures sup pour aller tabasser des manifestants. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez louable dans la démarche.
On a compris que l'ère Macron serait l'ère des voyous au pouvoir, quand même. Alors, Benalla n'est pas au pouvoir, n'exagérons rien. Mais si vous voulez, c'est une ère où on peut être voyou. Faire du tabassage, comme vous dites, etc., menacer, etc., et puis être dans le palais. Voilà. Donc ça a commencé par un garde du corps, et ça finit par un ministre quand même. Parce que vous avez un ministre des Transports, qui n'a pas n'importe quel ministre en plus, les Républicains, et ça on va revenir là-dessus comme par hasard, qui est à Nice pour accompagner le président de la République pour une visite officielle du président indien, si je ne me trompe pas.
Ou d'un ministre, je crois, je sais plus.
Je sais plus. Peu importe, en tout cas, c'est une visite officielle. Ils vont visiter à Nice un endroit, des entreprises, peu importe. Voilà, il y a une visite d'État, il y a le président de la République qui est là, et le ministre des Transports qui l'accompagne. Et comme Nice, comme ils sont à Nice, il y a le maire de Nice qui est présent, ce qui est tout à fait normal.
Ce qui est la moindre des choses, c'est lui qui accueille.
Voilà.
C'est normal.
Et comme il est de coutume, lorsque le gouvernement, le président de la République accompagné d'une partie de son gouvernement sont dans une ville, quelle que soit l'étiquette du maire, tout ça se passe de manière, entre guillemets, le mot que je déteste, républicaine.
Ce sont les coutumes républicaines.
Il nous rabâche les oreilles avec ce terme républicain, valeur républicaine, coutume républicaine. Alors, chiche, comme on dit, admet très bien. Et donc, ça se passe très bien, de manière courtoise,
voilà.
La radio courtoise.
Bien élevé, voilà.
Bien élevé. Alors, Monsieur Tabarot tombe sur Monsieur Ciotti, qu'il n'aime pas parce qu'il a quitté les Républicains pour fonder l'UDI, comme tout le monde le sait.
Donc, l'UDR.
L'UDR, pardon. L'UDR.
L'UDI, c'est tiède.
Oui, l'UDR. Allié au Front National, au Rassemblement National, vous voyez les lapsus. Et donc, il aurait pu lui dire bonjour monsieur, et puis terminé. Non, il le traite de nabo, excusez du peu. Tout ça,
plusieurs
c'est
fois, devant témoin.
Oui, devant témoin. Le canard enchaîné le rapporte. Le canard enchaîné qui n'est pas vraiment ciotiste, c'est un journal de gauche.
Pas trop.
Le rapporte. Alors, il le traite de nabo. Je pensais qu'ils étaient antiracistes. Je pensais que les racistes étaient
RN. Non, là, c'est du validisme. C'est discriminer les nains.
Oui, mais c'est encore... Il le traite de nabo, et après, il lui dit, on va t'éliminer, tu vas voir, je vais t'envoyer des Géorgiens t'éliminer. Alors, je suis...
Fabuleux.
Stupéfait de savoir que notre ministre des Transports, qu'un membre du gouvernement d'Emmanuel Macron fréquente des Géorgiens tueurs. Des tueurs géorgiens, pardon. Des tueurs géorgiens. C'est intéressant. Oui. Enfin, dans un pays normal, un ministre comme ça, il est expulsé du gouvernement immédiatement.
Normalement,
D'ailleurs, il y a une plainte contre lui de la part de M. Ciotti.
Heureusement.
Alors, pour conclure ce sujet, moi, ça ne m'a pas trop étonné, parce que comme vous l'avez dit, Pierre-Henri, c'est des méthodes du vieux RPR, ça.
Ouais.
Parce que qui fait la morale à ce qu'il appelle, lui, l'extrême droite, raciste, machin. En fait, ça a toujours été... Au RPR, il y a toujours eu des barbouzes. Alors, sous leurs airs, comme ça, en cravate, machin, il y a beaucoup de gens corrompus qui fréquentent des mafieux. Et le tabassage, les menaces, les pressions physiques...
Jusqu'au meurtre.
Ça a fait partie... Alors, pas tous, Attention.
Pas tous, mais loin évidemment.
Voilà. Mais il y a toujours eu une équipe dans ce parti de barbouzes, de gens qui menacent. J'en ai été victime moi-même, c'est pour ça que je peux en parler. J'en ai été victime dans les années 90, j'étais jeune étudiant. J'avais quitté une association que je ne veux pas citer, parce que parfois elle fait du bon travail, mais à l'époque, elle était dirigée par un type qui était un faux employé de la mairie de Paris. Et donc,
merci Jean Tiberi.
Voilà. C'était à l'époque de Chirac.
Ah, c'était Chirac,
c'était Chirac
encore.
Oui, c'était Chirac. C'était en 90.
Ouais.
Et donc, la punition pour moi, c'était de me faire tabasser. J'ai eu quand même un traumatisme crânien. Enfin, c'était pas du tabassage lambda. Hein. C'était trois personnes qui m'attendaient à la sortie de la messe, à laquelle ils avaient assisté d'ailleurs.
Sympathique.
Et bref, je vous passe les détails. Et donc, tout ça parce que je les ai quittés pour fonder une association proche du FN à l'époque.
Là, c'est pareil. Ciotti a quitté LR. On va lui envoyer des Géorgiens.
Voilà.
Ce sont des méthodes de la grande époque, avec beaucoup de guillemets, Pasqua, Focard, etc.
Et ce sont ces gens
sont les
qui
mêmes,
font la morale et qui parlent de valeurs républicaines matin, midi et soir.
Oui, oui, oui.
Il nous reste une minute.
Il nous reste à peine une minute.
On ne peut pas terminer cette émission sans parler du maire d'Ivry-sur-Seine.
Philippe Bouissou, Ivry-sur-Seine, qui est un communiste, qui est un bolchevique complètement hystérique. En quelques mots, vous avez tous vu, hein, il défend une de ses adjointes qui arrive en conseil municipal.
Il l'a fait élire, voilé, déjà.
Il l'a fait élire. Kevin Nader, qui est un élu d'opposition à cette mairie qui est du RN, propose un amendement pour réclamer l'application de la loi de 1905 dans le conseil municipal. Le bolchevique lui répond qu'il n'y a aucune raison que la laïcité s'applique dans le conseil municipal. Ah bon ?
Et dans la ville.
Kevin Nader réplique en récitant « Je vous salue Marie » avec une croix à la main. Et que devient le bolchevique ? Exactement comme le vampire devant un crucifix, il devient hystérique et le visage déformé de haine et l'accuse d'avoir commis un crime politique. Comme vous le disiez hors antenne, si les seuls crimes de la dite extrême droite sont de réciter des prières,
tout va bien, on est
sur la bonne voie. Allez, on arrive à la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Merci, chers auditeurs.
Merci, à bientôt.